Et voilà donc, Onde Noire, seconde partie.
Et dernière, pardon.
Et, bah oui, la seconde, généralement, c'est qu'il n'y en a pas derrière.
Ah, pardon. Donc Jacques, tu vas nous parler d'un roman qui se passe... je ne sais où, en fait.
En Égypte.
En Égypte, pardon.
C'est un roman de Parker Bilal qui s'appelle « Meurtre rituel à Imbaba ».
Imbaba, c'est en Égypte, donc.
C'est même un quartier du Caire.
Ah.
Et donc, il est paru dans la collection Seuil policier, le grand format. Il est traduit par Gérard Dechergé. Alors, je vais commencer par un petit rappel. Parker Bilal, en fait, c'est le pseudo d'un universitaire d'origine saoudienne, anglo-saoudien. Il s'appelle Jamal Majoub. Et entre autres, il écrit quelques romans ou quelques œuvres publiées à Actes Sud. Mais là, c'est sous le pseudonyme de Parker Bilal. C'est son deuxième roman.
Seuil policier, d'ailleurs.
Voilà, toujours Seuil policier. Il a créé un détective privé en 2012. En France, c'était traduit l'an dernier, donc en 2015. Le roman s'appelait « Les écailles d'or ». Ce roman, donc, est la deuxième enquête du détective Makana. Makana, c'est un ancien flic soudanais, expatrié et réfugié au Caire, le pays voisin, suite à la prise du pouvoir au Soudan par les islamistes. Petit rappel géographique, le Soudan, c'est le pays qui est juste en dessous.
Surtout, ne me pose pas de questions.
Juste en dessous de l'Égypte. Alors, dans le premier tome, nous étions, enfin disons, le roman se déroulait en 1998. Dans celui-ci, nous sommes, ou ils sont, en 2001. La mission de Makana, qui est donc détective privé, dans ce roman, ça va être de retrouver l'auteur d'une lettre de menace à un directeur d'agence de voyage, une agence de voyage plutôt réputée du Caire. Il va, pour ce faire, intégrer l'équipe de l'agence, donc comme audit comptable, une espèce de couverture, il faut bien le dire, assez peu crédible, mais qui va quand même fonctionner un certain temps, quand même. Il va quand même, dans son investigation, disons, assez vite tomber sur Mira, parce que M-E-2-R-A, Mira, une femme qui est la seule personne de cette agence qui semble un tant soit peu concernée par le boulot de l'agence. Mira est copte, elle est belle et intelligente, et elle est aussi très bientôt morte. Elle va être assassinée dans le souk alors qu'elle avait justement rendez-vous avec Makana pour lui parler de quelque chose.
Le mystère s'épaissit.
Exactement. D'une autre part, il y a toute une série de meurtres de jeunes garçons à Imbaba, donc qui est un quartier, disons, défavorisé du Caire,
très
un
populaire.
Peu les quartiers nord, en quelque sorte du Caire, ou les quartiers est, pour si on se réfère à Nice. Une espèce de zone de non-droit où quelques-uns font malgré tout la loi, mais surtout pas la police. On va vite accuser dans ce quartier les chrétiens. Donc les chrétiens dans ces quartiers, c'est les coptes, d'être responsables de ces meurtres. Et pour certains, de là en faire des meurtres rituels, un petit peu comme ceux que l'on attribuait aux juifs dans un temps pas si lointain que ça.
Pas si éloigné, non.
Mais bon, bien sûr, Makana, lui, il trouve que c'est un peu trop facile, et il va aussi chercher le pourquoi de ces meurtres. Ouais, je vais pas vous en raconter plus. On avait déjà beaucoup aimé le premier, Makana, tout en trouvant que l'auteur facilitait un petit peu, un peu trop la vie et l'enquête de son héros. Dans celui-là, Parker Bilal rectifie complètement le tir. Son détective mène une vraie enquête de détective hard-boiled, quasiment, avec cigarette sur cigarette. Alors, c'est des Cléopatra qui fument, même qu'il achète en contrebande. Il y a aussi des filatures, de la castagne, et même, pour faire vraiment hard-boiled, de la dégustation de Jack Daniels. Les indices, il va les découvrir à la force du poignet, même si à un moment, il fait quand même une très belle croisière sur le Nil, qui ne sera pas si agréable. Mais qui ne sera pas si agréable que ça, complètement pour lui. Et on retrouve tout ce qu'on a aimé dans le premier roman. L'ambiance du Caire, décrite comme une ville polluée, embouteillée, pas vraiment sûre, et somme toute fort peu attirante, et pourtant magnifique, une ville dont, enfin, à la lecture, on a envie d'y aller malgré tout. Et on retrouve les habitudes de Makana, son vieux rafio, une espèce de péniche qui flotte à peine, dans lequel il tente de dormir. Son ami journaliste, sa jeune voisine, un peu, disons, effrontée. Et ses déambulations dans le Caire, à la manière d'un Marlowe oriental.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait un peu Philippe Marlowe,
voilà,
ça.
Voilà, c'est pour ça, ouais, Marlowe oriental, parce qu'il est vraiment, il n'y a pas de doute, c'est pas du tout un États-Unien. Et il nous raconte aussi, et surtout en fait, ce pays gangréné par la corruption, dans lequel ou dans laquelle s'installent de plus en plus les intégristes. En 2001, donc, je vous rappelle. Lesquels ne sont pas les moins corrompus de tous, bien évidemment, contrairement à ce qu'ils voudraient nous faire croire. Les politiques, les religieux, les militaires, associés en une espèce de sainte trinité de malfaisants qui font assez peu, qui font bien peu de cas des laissés pour compte qui sont un peu, qui vivent dans ce quartier d'Imbaba et même dans d'autres quartiers du Caire. Alors c'est étonnant parce que bon, c'est au Caire, mais dans les deux romans, on parle quasiment jamais du Caire que nous on connaît, les pyramides, etc. On les évoque à peine. C'est vraiment le quartier, le Rome, j'allais dire. Le Caire du actuel, quoi. Enfin, actuel de 2001, mais ça n'a pas beaucoup changé. Ou peut-être Empire, a priori. Les romans suivants, il y en a déjà un autre qui est paru en anglais. C'est traduit de l'anglais, j'ai obligé de préciser, parce qu'il aurait pu l'écrire en arabe. Mais il écrit en anglais, ce monsieur Parker Bilal.
Alors, rappelle le titre rapidement.
Alors, Meurtre rituel à Imbaba, de Parker Bilal, publié au Seuil policier et traduit par Gérard de Chergé.
Alors, on va faire un grand écart, parce que le livre dont je vais vous parler a vraiment une ambiance différente, mais c'est tout aussi intéressant à découvrir. C'est un livre qui s'appelle Branches obscures. Je vais avoir du mal à prononcer le nom de l'écrivain. C'est un Norvégien, Nicolas Frobenius. J'espère ne pas avoir écorché son nom. C'est sorti, alors tu parlais des romans de Parker Bilal, enfin, avec un autre nom, chez Actes Sud. Eh bien, le roman dont je vais vous parler est paru chez Actes Sud, et je précise, pas Actes Sud noir, mais la collection phare, la collection la plus connue de cet éditeur. Et c'est traduit donc, comme je l'ai dit, l'auteur est norvégien, c'est traduit du norvégien par Céline Roman Monnier. Au départ de ce roman, en gros, on va découvrir des personnages, somme toute, très banals. On a Joe Uderman. Bon, d'accord, il est écrivain. Alors, tout le monde n'est pas écrivain, mais bon, c'est pas une vedette, c'est un écrivain peu connu. Il est marié à une charmante femme, père d'une petite fille. Et là où on le découvre, eh bien, c'est au moment où son dernier roman va peut-être lui apporter une certaine notoriété. En tout cas, son éditeur y croit. Il est demandé pour une interview à la télévision. Il va passer à la télévision, tout de suite, il va être plus connu. Et pour écrire ce roman, très différent des autres romans de Joe Uderman, il a plongé dans son enfance et il raconte son amitié pour un garçon un peu différent, bien mystérieux, qui va très vite se tourner vers le mal. Mais comme maintenant, avant le moment où il a écrit ce roman, cet ami est décédé, eh bien l'écrivain peut se permettre de disserter à loisir sur les méandres les plus noirs de son âme. Évidemment, vous pensez bien, maintenant, ça ne fera plus de mal à personne. Il est disparu, il est décédé, sa maman lui a confirmé, il n'est plus sur Terre. Et à partir du moment où le roman est publié, surtout après l'interview télévisée, il y a des petites choses qui se passent dans la vie de Joe Uderman. Des messages mystérieux, un chien mort dans le garage. Mais quand une amie d'enfance qui l'a aidé pour le livre est à ce moment-là retrouvée assassinée, là, on va tomber dans le chaos. Et en gros, on va commencer à se poser la question, à l'instar de l'écrivain, écrivains.
Est-ce qu'il est mort ?
Non. Un personnage de roman peut-il se venger ?
C'est
une très jolie idée de roman. Et la construction narrative de l'écrivain norvégien, elle est très habile. L'on bascule, au fil des pages, insensiblement, en gros dans le même désarroi que le personnage principal. Et surtout, où est la vérité ? Où est la raison ? Donc on a des frontières entre le réel et la fiction qui sont complètement abolies. Et l'on peut sérieusement douter que les événements que vit l'écrivain Joe Uderman sont réels, ou bien sortis de son cerveau dérangé. Sans compter que tout ça, de toute façon, c'est dans un roman. Parce que le problème, c'est que dans les deux cas, les faits, ils sortent de l'imagination de Nicolas Frobenius. Et c'est totalement machiavélique. On a donc très peu de lumière, beaucoup d'ombre, beaucoup d'obscurité. Tant dans l'environnement que dans les têtes, les flous, les miroirs que l'on doit franchir pour avoir une vision plus nette. Ce roman paru, je le rappelle, dans la collection, on va dire, blanche d'Actes Sud.
Celle qui est oblongue.
Voilà. N'est certes pas un thriller, loin de là. Et pourtant, il est glaçant, il est inquiétant. Et même après la dernière page, quelques doutes subsistent. Tel un thriller d'ailleurs, on a hâte d'arriver au dénouement. Et ce livre, c'est un vrai page-turner. Que l'on referme, je dirais, à peine rassuré. Très déstabilisant, donc très intéressant. Voilà, je rappelle le titre, ça s'appelle « Branches obscures ». C'est traduit par Céline Roman-Monnier, parce que l'écrivain est un Norvégien, Nicolas Frobenis, chez Actes Sud. Alors, j'allais dire un peu de musique, mais c'est peut-être pas vraiment
pas
ça.
Pas tout à fait, en fait. Dans le cadre, comment je peux dire, dans le cadre d'un partenariat plus ou moins éphémère entre Agora Côte d'Azur et BBC Scotland.
Il va falloir prévenir les autorités.
Voilà, nous avons demandé à Sean Connery de venir nous aider à évoquer la mémoire de George Martin, qui était donc le cinquième Beatles, le tonton de John ou le papa de Paul, enfin, selon comment les journalistes l'ont traité. Donc George Martin, qui a beaucoup aidé à la notoriété des Beatles. Et donc là, Sean Connery va nous lire, va nous réciter une chanson des Beatles qui s'appelle « In My Life ». Et les arrangements derrière de clavier et de cordes sont, bien sûr, de George Martin. Vas-y, Sean.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
Eh bien, on remercie Sean d'être passé en coup de vent. Le plus dur, ça a été de caser l'orchestre à cordes quand même dans les studios d'Agora FM, mais c'était quand même un petit moment sympa. Donc, goodbye George Martin. Et sans transition, dirais-je, on va quand même parler de mort, d'ailleurs.
Eh ben oui. Rien que dans le titre, avec un roman donc de Jack Ingson qui s'appelle L'homme posthume, qui est paru donc chez Gallmeister dans la collection Néo Noir, et il est traduit par Sophie Aslanides. Alors, on a déjà parlé dans cette émission de Jack Ingson avec son précédent et premier roman qui s'appelait L'enfer de Church Street, qui vient d'ailleurs d'obtenir le prix Mystère de la critique dans le domaine étranger.
Et c'est bien mérité.
C'est tout à fait mérité. Alors, le personnage principal de ce roman, l'homme posthume, donc, on peut pas dire que c'est un héros, c'est loin d'être un héros. Il s'appelle Elliot, et il vient de se suicider, et de presque se rater. Il n'est mort que 3 minutes. Il se réveille dans un hôpital, une infirmière à son chevet. D'où le titre aussi intriguant que génial, L'homme posthume. Dans son retour à la vie, il va s'acoquiner avec la jeune infirmière Félicia. Elle est plus ou moins membre...
C'est mignon, s'acoquiner avec l'infirmière.
Il n'y a rien de sexuel, du moins au début. Félicia, elle est plus ou moins membre d'une bande qui prépare un casse à plusieurs millions de dollars quand même. Mais une bande quand même de bras cassés, plus ou moins crétins, mais pas moins dangereux pour autant. Il y a Stan the Man et deux jumeaux, dont un est flic. Si les flics font des braquages maintenant, enfin ça arrive.
Oui.
Elliot donc va faire, pour un temps au moins, le cinquième larron et les aider à dérober leur futur butin. Alors ce roman, s'il avait été traité par les frères Coen, ça aurait pu être une comédie noire comme ils savent le faire. Mais là, Jake Hingson, tout comme dans son premier roman, il va convoquer un personnage supplémentaire. Dieu. Bien sûr, Dieu n'intervient pas directement dans le roman. Mais son empreinte est là tout au long des 170 pages. Dieu et ses traditionnels acolytes. La culpabilité, la rédemption, le péché, la miséricorde et bien d'autres. Évidemment. Donc c'est assez drôle malgré tout parce que les personnages ils sont complètement barrés. Donc ça peut pas rester vraiment sérieux. Mais n'empêche qu'il y a cette pression de religieuse qui est dans toutes les lignes pratiquement. Alors ce roman n'est pas tout à fait aussi fort que L'Enfer de Church Street, mais c'est plutôt réussi quand même. Surtout grâce à deux personnages féminins. L'infirmière, donc, Félicia, et un peu plus tard, la jeune fille de la décharge. Une décharge donc, dans laquelle on va jeter nos déchets. Une grosse décharge pour les... Voilà. Et alors il va y avoir d'ailleurs quelques scènes plutôt hautes en couleur. Alors là vraiment... à la fois irrésistible et pourtant pas forcément drôle, dans cette décharge, où, disons, le retraitement des ordures n'est pas forcément excessivement bio.
Ça serait.
Alors, c'est un livre qui est un rythme assez vif, parfois assez sanglant, et un livre qui ne se perd absolument pas en conjectures psycho-machin-chose, quand on voit dans certains romans, dans certains polars.
De l'action, encore de l'action.
Oui, oui, et puis bon, il y a des réflexions, mais c'est pas il n'y a pas de gloubi-bulga psycho. C'est très bien écrit, tout comme le premier, et c'est un roman qui s'inscrit tout à fait dans cette collection de polars noirs, néo-noirs. Même s'il n'en sera pas forcément un des fers de lance, malgré ou à cause de ce personnage principal, en fait, qui dès le début, n'a plus rien à perdre, il vient de se suicider.
Tu parlais de Dieu, moi.
Non. Bon, celui-là, bon, c'est encore plus compliqué, mais...
Il n'a plus rien à perdre non plus.
Non, Elliot, donc en fait, il n'a plus rien à perdre, mais en fait, on se rend vite compte qu'il n'a plus rien non plus à trouver, à gagner dans ce roman. Alors, il va être là, il va, en fait, dès les premières pages, il va se laisser aller comme s'il n'était pas vraiment sorti de son état d'entre la vie et la mort. Il est à peine, comme s'il était mu par une espèce de super moelle épinière qui le fait à peine réfléchir. En fait, c'est juste... un homme posthume, comme le titre l'indique bien.
Mais ça donne déjà beaucoup d'intérêt au roman. Il faudra quand même un jour qu'on explique à tous les écrivains et à tous les cinéastes que quand on a un accident, quand on se suicide, quand on est malade, il n'y a pas une infirmière à notre chevet quand on se réveille. Eh ben non, elle est en général de l'autre côté. C'est très bizarre, c'est une image d'épinal.
Non, mais là, c'est elle qui l'a aidé, qui l'a fait le massage cardiaque ou je ne sais plus quoi exactement, qui l'a permis de revenir à la vie. Et donc, elle vient, quand elle sait qu'il est réveillé, elle vient à son chevet voir comment il se porte quelques minutes, quelques heures après son admission.
D'accord, non mais une infirmière à son chevet, c'est quand même quelque chose d'assez courant.
Eh ben oui, c'est courant et ça l'est pas en fait dans la vraie vie, mais bon, c'est pour ça, c'est les romans, c'est pas la vraie vie non plus, hein, je vous le rappelle.
Tout à fait. Ah non, des flics qui feront des braquages, ça se saura.
Par exemple, voilà. Et je vous dis pas si le braquage réussit, vous le lirez.
Vous le découvrirez dans le roman. Eh bien, on va se quitter sur... L'homme posthume, Jake Hingson, donc chez Gallmeister, collection néo-noir. On va vous dire à la prochaine émission, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.